Les nuits de France Culture, une nuit anglaise, une nuit commencée en duplex avec la BBC à Londres en compagnie de Denis Nolan. Une nuit anglaise au cours de laquelle nous avons pu suivre une émission de 1969 consacrée à Sacchi, puis une tribune de Paris dans laquelle André Mauroy, René Laloux, Jacques de Montalet et Jean Dutour, c'était en 1954, donnaient des conseils aux Français se rendant en vacances en Grande-Bretagne. Puis à l'instant, un opus de bouche à oreille consacré à l'assiette anglaise. Alors plus tard dans la nuit, nous nous intéresserons toujours à l'Angleterre, bien entendu, et donc aux nombreux fantômes qui hantent, par définition, tous les châteaux anglais. L'émission s'appelle Le Monde Insolite, Fantômes et Tourisme, par Jacques Borel. C'était une émission diffusée pour la première fois sur France Culture en 1972. Suivra une conférence de Raymond Lasvernias sur William Thackeray, du livre des snobs à la foire aux vanités. Et puis il y aura Agatha Christie, P.G. Woodhouse et Doris Lessing au programme, et nous aurons reçu via un duplex également avec la BBC, mais depuis Salford, une jeune Française qui vit en Angleterre depuis une quinzaine d'années et qui est enseignante, chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de York et qui publie un roman pour ados, adolescents, adolescentes, qui s'appelle Brexit Romance. Mais les adultes ont aussi beaucoup à apprendre de ce roman publié aux éditions Sarbacane. Alors le pitch, c'est un mot anglais peut-être, je ne sais pas, c'est organiser des mariages blancs entre Français et Anglais pour leur faire obtenir le passeport européen et donc échapper aux inconvénients du Brexit, si Brexit il y a. Mais c'est avec plaisir que nous vous retrouvons, Denis Nolland, vous êtes toujours à Londres?
Je suis toujours là, bonsoir de nouveau Philippe Carbier.
Vous êtes toujours dans un studio de la BBC?
Oui, là dans le grand bâtiment de Broadcasting House au centre de Londres.
Et quel est le
près
numéro...
de Oxford Circus.
Ah voilà. Quel est le numéro du studio?
C'est le 70C.
70C. J'irai voir un jour. Très envie. Alors au début de cette nuit, nous avons pu entendre le Big Ben et puis des émissions, enfin des extraits d'émissions grâce à vous, Denis Nolland, des émissions qui avaient été diffusées sur une des chaînes radio de la BBC, un mariage royal, mariage en 2018. Et bien aussi l'extrait d'une dramatique, enfin une fiction, une tragédie de Shakespeare, Jules César. Alors, on va poursuivre bien sûr l'immersion dans les programmes de la BBC et de l'Angleterre, de Denis Nolland, mais j'ai envie, enfin on l'a signalé déjà, que d'intéresser les auditeurs de France Culture à la manière dont les programmateurs de la BBC s'intéressent eux-mêmes à la France. C'est un peu narcissique, enfin narcissique, je ne suis pas la France, c'est un petit peu autocentré, un peu chauvin, disons le mot. Comment
non,
ça se
pas
dit
de, pas oui. de tout, pas de tout.
Comment se dit chauvin en anglais?
On dit chauviniste.
Voilà.
On a emprunté le mot.
Bah tiens.
Parce qu'on ne peut pas faire mieux que les Français en matière chauviniste.
C'est exact. Alors, vous-même, puisque vous êtes bilingue, vous avez étudié le français, vous avez étudié peut-être la littérature française, donc je...
Oui, j'en ai eu le grand plaisir d'étudier le français et la littérature française. J'ai aussi vécu un peu à Paris, qui c'était pour moi un grand plaisir.
Et alors, tant que vous là-bas, à la BBC, on rappelle rappelez-nous un petit peu ce que vous faites à la BBC. Les auditeurs qui n'étaient peut-être pas à minuit à l'écoute de France Culture ne le savent pas. Ils se disent, qui est ce Denis Nolland? Vous êtes le grand patron de la BBC?
Je ne suis pas exactement le grand patron. Je suis un très petit patron. on pourrait dire le sous-chef de trois réseaux nationaux de radio. Et c'est un réseau de musique classique, comme la France Musique, et de réseaux à base de paroles.
De paroles, de sons, de dramatique.
Oui, de fiction, de drame, de reportage, de débat, de discours, de l'information et de rire.
Art de rire, oui, justement. Alors,
parce que vous savez, Philippe, que nous ne manquons pas, il ne nous manque pas les sujets pour rire à ce moment en Angleterre.
Mais tiens, écoutez, quand on a parlé comme ça des extraits d'émissions que j'aimerais faire entendre aux auditeurs de France Culture, de ces nuits de France Culture, cette nuit anglaise, vous m'avez dit, alors on a parlé des humoristes tout de suite, c'est un petit peu compliqué d'entendre un humoriste anglais si on n'est pas soi-même parfaitement bilingue. Mais vous nous avez envoyé passer un extrait que j'aime bien, je comprends pas tout, mais vous allez nous l'expliquer. Alors on l'écoute et puis vous nous ferez le compte-rendu. Vous êtes d'accord, Denis Nolland?
J'entendrai.
Andy, whose bromance is looking a little flaky?
Well, hats off to President Macron this week because, you know, countless world leaders have been perplexed and paralysed even by the problem of exactly how you engage with a man like Donald Trump. And Macron has opted for the extremely bold strategy of initiating a homosexual relationship. No, be fair. No one else thought of that, did they? And it was rather joyous, wasn't it? I mean, they could not keep their hands off each other, could they? They were hugging and holding hands and grooming and kissing. And that's just the stuff that was in front of the cameras. You know, that's just the stuff we saw. I mean, goodness knows what went on behind closed doors in Trump's Oval Office. And that's not a euphemism, so... But I'm not sure that Macron really achieved anything as regards global warming or Iran, because Trump is supposed to renew the Iran deal on the 12th of May, but what he said was, nobody knows what I'm going to do on the 12th of May. And that includes him, I imagine.
Denis Nolland, alors qui est cet humoriste
Alors c'est Andy Hamilton, c'est un type très très connu en Angleterre, dans la Grande-Bretagne, comme écrivain et... comment ça s'est dit, performateur d'humour.
Mm-hmm. Humoriste.
Humoriste, oui.
En français, one-man show, il fait peut-être.
One-man show, oui. Mais ici, il fait partie d'un un groupe qui commente de façon humoriste, de manière humoristique sur les informations de la semaine. Alors, c'était enregistré, je crois, en avril, quand Macron était allé à Washington, pour rencontrer Donald Trump. Et c'était... j'espère que je ne choque pas trop vos éditeurs, mais la blague, c'était qu'il a dit que tous les autres leaders du monde ont tenté de créer une relation avec ce nouveau président. Et ils n'ont pas su comment le faire. Macron a eu l'idée de former... une liaison homosexuelle avec lui. Alors, c'est-à-dire que sur les écrans de télévision, on les a vus se tenant par les mains, s'embrassant, se rapprochant physiquement. Et c'était, on dit en anglais, un bromance, il a dit. C'est-à-dire une romance entre les hommes. Et alors, c'est une blague, mais c'est à cause de ça que tout le monde a ri. Et puis, il a dit... Il a fait un type de double entendre assez suggestif sur the Oval Office of Donald Trump, okay? Le bureau ovale de Donald Trump. Je préfère pas expliquer trop ce double entendre.
Je préfère moi-même, vous savez, ne pas comprendre ce que vous dites, Denis Nolland. En tout cas, oui. C'est vrai qu'il y avait, plus de mouvements, d'embrassades, voilà, qu'avec Angela Merkel qui essayait de parler à Trump, qui a l'impression qu'il somnolait, enfin, on ne savait pas.
Oui, mais c'est un type un peu singulier, on peut dire.
On peut dire. Mais ces humoristes qui, à la BBC, à la radio ou à la télévision, Denis Nolland, qui tape sur tout le monde, mais cela dit, il y a ça en France aussi, hein, heureusement, mais... Quelles sont les limites quand même? Est-ce qu'il y a, par exemple, la famille royale, on n'a pas le droit de se moquer? Est-ce qu'il y a quand même une censure, une autocensure ou pas du tout?
Les limites, c'est une chose qui est constamment mise en question et constamment discutée. Mais il n'y a pas de limites écrites, les limites exactes. On trouve les limites par l'expérimentation. Alors, il y a pas du tout une prohibition de se moquer de la famille royale. Il y a beaucoup d'humoristes qui gagnent leur vie en faisant exactement ça. Et sans doute aussi peu de toute la tous les gens les gens politiques, les politiciens sont absolument les comment ça se dit les cibles de l'humour anglais. Non, il n'y a pas de limite, mais ça dépend. Il n'y a pas de limite exacte et universelle. Mais il faut savoir, en manière, quand on fait les émissions, quand on est responsable pour les émissions, il faut réfléchir toujours à l'heure
de diffusion,
c'est-à-dire de diffusion, à les expectations, ça se dit, des auditeurs. Par exemple, si c'est tard le soir, on attend écouter les choses un peu plus risquées. Le dimanche matin, un peu moins risqué. Vous me comprenez? Mm-hmm.
Je comprends, mais en même temps, avec les podcasts et les chargements, maintenant, vous savez, tout le monde peut réécouter à n'importe quelle heure du jour et de la
oui.
nuit.
Oui, c'est vrai. Alors, surtout les podcasts, au commencement du podcast, s'il y a de la langage choquante, très explicitement sexuelle, par exemple, on met un avertissement au commencement du podcast.
Pour donner envie aux enfants d'écouter.
Exactement, exactement.
Très bien. Alors, est-ce que les enfants de Denis Nolland ont écouté la dramatique dont on va entendre un extrait? Alors, on ne dit pas de quoi il s'agit, mais les auditeurs français, et vous, encore mieux, vous allez reconnaître, bien entendu.
Let me tell you about blood.
Family, society and nationhood during the reign of Napoleon III.
Blood is a battleground.
A series of epic dramas starring Robert Lindsay and Glenda Jackson, inspired by the works of literature's greatest whistleblower.
Down the family tree, the strong blood must run.
Well, get out of this room before I beat the sin out of you!
Blood, Sex and Money by Emile Zola. Season 1, Blood. On BBC Radio 4. Begins this Saturday afternoon at 2:30.
Blood, Sex and Money, et surtout Zola. Denis Nolland.
Oui, oui. C'était une bande annonce pour le projet dramatique le plus grand qu'on a jamais entrepris à Radio 4. C'était la dramatisation des romans Rougon-Macquart de Zola. Et nous avons fait en 20 parties, en 20 émissions, chaque de 1 heure. Alors, c'était un projet énorme qu'on a fait il y a 2 ans. Et ça a fait une impression très, très profonde sur nos écouteurs. On peut dire que Zola a été redécouvert dans notre pays grâce à ses émissions.
Merci alors, Denis Nolland. Est-ce que cette petite jeune fille dont vous avez, sur laquelle, autour de la vie, de laquelle, la mort, de laquelle vous avez fait une dramatique, a été redécouverte par les Anglais? Alors là, écoutons aussi l'extrait, Denis Nolland.
Let's do big picture to start with. What was Agincourt? Why was it so important?
Agincourt was a battle between the invading army of Henry V and the great might of the French princes of the blood rallying to defend their kingdom. It should have been, the French thought, a glorious victory. The French always thought it should be a glorious victory for them, but particularly because Henry was fighting with his happy few, as Shakespeare put it, or humble few, as one of his chaplains who wrote an account of the battle reported that he actually said, the humble few of England. The English army was much smaller. And yet, God granted England, in contemporary eyes, God granted England this astonishing victory against all the odds. And the great might of France, the princes on their great war horses, were trampled into the mud.
Why did the English win militarily?
Short answer is the longbow.
Alors, Denis Nolland, c'est pas une dramatique, ça, mais c'est un débat autour d'un personnage?
C'est un débat autour de la pucelle, Jeanne d'Arc. On l'appelle la pucelle, non?
Oui.
Oui. Ça faisait partie d'une longue série d'émissions sur l'histoire des grands pays de l'Europe, où nous avons tenté de comprendre les sources de leur histoire, de leur sens d'identité. Quelqu'un nous dit que, je ne sais pas qui était, mais quelqu'un dit que un pays, une nation, c'est une communauté imaginaire, n'est-ce pas? C'est la nationalité prend sa, ses origines sont non pas seulement dans les faits concrets et matériels, mais aussi dans les idées, dans les émotions, dans les mythes. Alors, c'était l'émission était intitulée The Invention of France, l'invention de la France. Et on a tenté de comprendre. Alors, les sources historiques et aussi mythiques de la France et de la compréhension de soi qu'a la nation française. J'espère que ce n'est pas trop provocant pour vos auditeurs que j'ai choisi un extrait sur la bataille d'Agincourt.
Mais vous l'avez gagné vraiment cette bataille, je ne sais plus.
Je ne me rappelle pas.
Bon, alors l'invention de la France, ça passe par les personnages héroïques tels Jeanne d'Arc de Nina Hollande, mais ça passe aussi évidemment donc par la littérature. On a pu entendre la bande-annonce de votre série Zola, d'après la série des Rougon-Macquart, mais aussi évidemment autour d'un autre écrivain. Alors voilà, ça, je ne sais pas si c'est la bande-annonce ou un extrait d'une dramatique.
C'est un extrait que vous allez entendre.
Un extrait, on l'écoute.
It's pointless to seek in reality for the pictures stored in your memory. The reality you've known no longer exists. For a long time, when I thought back to those days, all I could see was a vague and shadowy outline. Until one day...
Are you cold?
Coming back from playing in the Champs-Élysées.
No. Oh, let's take off your gloves. Feel your hands. Ooh. Like some tea?
No, thank you.
Oh, have some. It'll warm you. Come on. There we are. And have a Madeleine as well. Do you like them? How's Gilbert? Hmm? How is she?
Hmm.
Oh, no. Oh, please don't dip your cake in your tea. I think you know what I think of it.
An exquisite pleasure invading my senses. I no longer feel mediocre or accidental or mortal.
Feeling warmer now?
Where's it come from?
Mama!
The Lady Genevieve de Brabant.
Don't go!
Silly.
Kiss!
Let the boy sleep.
No!
The hawthorn.
Is it Swan?
Yes.
Again?
Gilbert, come here.
What does he want?
Mama!
Let him sleep with you.
Gilbert!
What harm can it do?
Once upon a time.
Mama!
What can be done with the young?
It's the Duchess.
She's looking at me.
The Duchess.
Natural beauty to the left.
The twin steep tomorrow. The plains. What did they mean?
The waterlilies. The lion will lay down.
Marcel!
Love.
Il ne pouvait être question d'une nuit anglaise sans un peu de thé. Et là, c'est un morceau de gâteau. Quel gâteau dans le thé.
Mais c'est un thé pas tout à fait anglais, mais un thé verveine, je crois.
Oui, oui.
Dans lequel est trempée une petite miette de madeleine.
Tiens.
Et alors, l'histoire très très bien connue de Marcel, le jeune Marcel et
le jeune narrateur.
Excusez-moi.
Le narrateur.
Le narrateur, oui, de la recherche des temps perdus. Du temps perdu.
Du temps perdu. Alors, c'est donc une adaptation. Alors, qu'avez-vous pris à la BBC de Nina Hollande qu'avez-vous choisi dans la recherche du temps perdu un extrait, enfin, je sais pas, du côté de chez Swann ou toute l'œuvre?
On a dramatisé toute l'œuvre, mais il faut admettre qu'on a dû condenser très brutalement, mais on a fait quand même en 6 heures, on a dévoué 6 heures d'émission dans laquelle on a dramatisé tout l'arc dramatique, narratif des romans.
Et c'était une diffusion en 6 heures ou 6 fois 1 heure ou...
6 fois 1 heure, oui.
Et alors, est-ce que ça a eu un succès? Est-ce que les auditeurs de la BBC ont aimé cette adaptation de Proust?
Oui, beaucoup, beaucoup. Il faut admettre qu'il n'est pas très... il est bien connu, mais pas très lu. en Angleterre. Bah, ce sont des grands romans. Qui a le temps de lire ces grands romans? J'en suis fier que nous l'avons présenté de façon nouvelle pour que les gens le découvrent, peuvent le découvrir et peut-être même expérimenter avec le texte.
Alors, Zola, Proust, il est question de Jeanne d'Arc aussi, du président Macron, enfin voilà. Donc, nous, on s'intéresse cette nuit à l'Angleterre, dans les Nuits de France Culture, mais toute l'année, dans le jour compris, évidemment, et la politique anglaise, et la culture, et l'économie, et tout cela, ça intervient dans nos discussions à la radio. Est-ce qu'on parle des Français souvent, comme ça aussi dans d'autres situations que culturelles, disons, ou pas littéraires ou...
Est-ce qu'on parle des Français?
Oui.
Ben, on parle toujours de la France. Parce que vous êtes nos voisins, vous êtes nos frères, nos semblables, et aussi nos contraires. Nous tentons toujours de comprendre la France, de nous approcher de la France. Nous avons beaucoup d'envie de la France, de sa culture, de son histoire, mais aussi il y a un certain frisson de concurrence, on pourrait dire. Il y a un livre dans nos bibliothèques en ce moment,
un livre d'histoire,
mais aussi une histoire de façon rigolo, humoristique, mais qui est intitulé « A Thousand Years of Annoying the French ». C'est-à-dire, comment nous avons embêté les Français, ennuyé les Français pendant 1000 ans. Alors, il y a toujours, dans la relation entre la Grande-Bretagne et la France, ce frisson de sibling rivalry. Comment ça se dit? C'est la rivalité entre les frères.
Voilà.
Entre les cousins, peut-être.
Qui s'aiment.
Mais il y a aussi une admiration profonde ici pour que toute la France, que la France représente. Quelqu'un a dit que chaque homme civilisé possède deux cultures, sa propre et celle de la France. Et je suis... très reconnaissant que j'ai reçu une toute petite partie de la civilisation, la culture française pendant ma vie. Et je crois que c'est vrai pour la plupart des Britanniques aussi. Ils admirent beaucoup la France et qu'ils veulent connaître mieux.
Mais quelle entente cordiale cette nuit, c'est formidable, Denis Nolland, parce que je vais vous répondre que c'est très très réciproque, que tous les Français adorent la littérature anglaise, le théâtre anglais, alors au XXe, XXIe siècle, les films et les séries anglaises, donc finalement, qu'est-ce qu'on s'aime? Vous allez peut-être faire une nuit française un jour sur la BBC, non?
C'est une charmante idée, je dois le proposer immédiatement.
Voilà, ne m'interviewez pas parce que je ne pourrais pas vous répondre en anglais, hélas. Alors, on va écouter donc la suite de cette nuit anglaise de Denis Nolland. Donc, il va être question de fantômes et de tourisme, puisque de toute manière, vous avez presque tous les fantômes du monde. Enfin, vous en avez au moins 80%. Hein, ils sont chez vous, les fantômes.
Oui, oui, bon. Chaque coin des ruelles de Londres, chaque grande maison... Tout rempli de fantômes.
Oui, oui, on a lu.
Et d'assassins.
Bien sûr, on a lu tous les romans anglais du 19e, et alors on sait tout ça. Une conférence donc sur du livre des snobs à la foire aux vanités, sur Tacré par Raymond Lasvergnas. On rencontrera donc Clémentine Beauvais qui nous parlera de son Brexit romance. Et puis une petite chose dans les Décraqués, vous écouterez tout à l'heure une émission de Bertrand Jérôme et Françoise Trossard, et c'était sur une auteure anglaise. Bon, vous écouterez, je ne dis pas, puisque c'est un jeu littéraire. Après, sur Agatha, alors là, Agatha Christie, on comprend tous. Et puis sur Woodhouse, et on terminera la nuit, et on vous retrouvera en toute fin de nuit, Denis Nolland. On terminera cette nuit par Une vie, une œuvre, Doris Lessing, une émission de Françoise Esteb. À tout à l'heure. Alors écoutez, soyez très attentifs à cette nuit anglaise, cher Denis Nolland.